c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers, en Dordogne, Aquitaine, et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous avons vous parlé longuement, presque, de Puerto Rico, Puerto Rico en espagnol. Nous allons parler de Cuba, du Chili et aussi un peu de cinéma. Mais je laisse la parole à Béatrix pour nous parler de Puerto Rico ou Puerto Rico en espagnol et vis-à-vis des États-Unis, n'est-ce pas?
Oui, concernant le sacre d'une voix anti-Trump qu'ils appellent Bad Bunny. Icône mondiale du reggaeton et l'un des artistes les plus écoutés de la planète, Bad Bunny, a assuré le spectacle de la mi-temps de Super Bowl le dimanche 8 février dernier, après avoir été couronné de 3 Grammys. Un choix inédit qui met en lumière un chanteur ouvertement engagé, défenseur de Puerto Rico et farouche opposant de la politique de Donald Trump. Pour la première de son histoire, à la mi-temps de la finale du championnat de football états-unien, on parlera espagnol. En le sélectionnant, la National Football League ne s'est pas contentée de miser sur l'un des artistes les plus populaires de la planète. Elle a aussi fait le choix d'une figure anti-Trump, critique assumée de l'impérialisme états-unien et défenseur des droits LGBT. Un artiste aussi ouvertement politique que farouchement détesté par la Maison-Blanche. Bad Bunny, star de Radio Latino, est aussi connu sous le nom de Benito Martinez Ocasio. Bad Bunny, un nom de scène hérité d'un déguisement de lapin, que Benito avait été forcé de porter étant enfant. L'ancien enfant de cœur n'a pas mâché ses mots sur la police de l'immigration, l'ISAI. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des humains. D'autant que le chanteur de 31 ans a fait de la défense de Puerto Rico l'un des piliers de sa musique. Dans ses paroles, Benito critique le statut précaire du territoire rattaché aux États-Unis.
Oui, et on peut ajouter qu'au Grammy Awards, les artistes se sont mis contre la police d'immigration de Trump. Et on dit dans cet article, dans le journal Le Monde, que les artistes commencent à se réveiller. Des chanteurs et musiciens se sont élevés contre la politique migratoire de l'administration Trump et en particulier contre la police de l'immigration. Voilà donc ce qu'on peut dire de ces Bad Bunny, Mad Bunny, n'est-ce pas?
Thank you.
Oui, vous êtes venu écouter l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler maintenant un peu de l'histoire de Porto Rico. Qu'est-ce que c'est le Porto Rico, Puerto oui. Rico en espagnol?
Puerto Rico, c'est un port riche.
Oui.
Est un État libre associé des États-Unis. Située dans les Antilles, l'île de Puerto Rico est bordée par la mer des Caraïbes au sud et l'océan Atlantique au nord. Le territoire comprend plusieurs îles plus petites. Les 3 200 000 portoricains sont des citoyens états-uniens et Porto Rico a sa propre constitution. En tant que territoire non incorporé avec le statut de Commonwealth, Porto Rico a depuis 1950 un grand degré d'autonomie. Ses citoyens élisent leur gouvernement et leurs commissaires résidents. Toutefois, ils n'ont pas le droit de vote à la présidentielle et la défense, la politique étrangère ainsi que la monnaie restent assumées par les États-Unis. En 2002 et 2007, le comité de la décolonisation de l'ONU a demandé aux États-Unis de permettre d'engager un processus permettant au peuple portoricain d'exercer pleinement son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que la restitution des terres occupées par les bases militaires de Vieques et de Ceiba. En 2016, la Cour suprême des États-Unis a confirmé que Porto Rico ne bénéficiait d'aucune autonomie significative ni d'aucune relation spéciale avec les États-Unis. La Constitution des États-Unis exige une loi du Congrès pour permettre à Porto Rico de choisir entre indépendance et le statut d'État. En mars 2025, des membres du Congrès font pression sur Donald Trump pour qu'il envisage de faire de Porto Rico une nation indépendante.
Quando te vayas de mí, bon, de la musique de l'Amérique centrale. Et parce que, évidemment, Puerto Rico, se trouve à côté de Cuba, pas loin de Santo Domingo, si. Et nous avons trouvé, nous avons été surpris parce que il y a eu aussi à Puerto Rico l'immigration française, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui. Se produisit de la suite de la situation politique et économique qui arrivèrent en divers lieux tels que la Louisiane, Haïti et l'Europe. Les Français qui immigrèrent à Porto Rico se marièrent avec les autochtones et colonisèrent divers endroits de l'île. Ils jouèrent un rôle déterminant dans le développement des industries du sucre, du coton et du tabac de Porto Rico et se distinguèrent comme hommes d'affaires, hommes politiques et écrivains. Influence française à Vieques. En 1823, Teofilo Le Guillou immigra de la France vers Porto Rico et s'installa dans l'île de Vieques. Il est considéré comme le fondateur de la municipalité de Vieques. Le Guillou, qui fut propriétaire terrien et d'esclaves, le plus puissant de l'île, demanda à l'Espagne d'autoriser l'immigration des familles françaises des îles de Martinique et de Guadeloupe. Attiré par la proposition de terres gratuites, des douzaines de familles françaises, parmi elles les Mouraille, Martineau et Lebrun, émigrèrent à Vieques et établirent des plantations de canne à sucre avec main-d'œuvre esclave. Les Français se marièrent finalement avec la population locale, adoptant la langue et la culture de leur nouveau pays. Leur influence à Porto Rico est très présente et est marquée dans la cuisine, les arts et la littérature. Des noms français comme Bettencourt et Gautier sont courants à Porto Rico. 16% des noms de famille de l'île sont français.
Voilà la musique de l'Amérique centrale sur le son de Radio Libre en Périgord, émission L'Autre Amérique. Et n'oubliez pas, la semaine dernière, nous avons parlé d'une diffusion ce soir à 22h50 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine d'un documentaire écrit et réalisé par Karine Bonjour. Ce documentaire parle du coup d'État de Pinochet au Chili le 11 septembre 1973, suscitant une indignation très forte dans l'opinion française. À Bordeaux, à l'initiative de tous les syndicats, des forces politiques de gauche, plusieurs milliers de Girondins manifestèrent dès le 13 septembre. La solidarité allait se développer durant plusieurs années et prit une dimension nouvelle avec l'arrivée à Bordeaux des réfugiés chiliens. Et aussi, il y a un réfugié chilien en Dordogne. Il y a longtemps. Bon, n'oubliez pas donc, ce soir à 22h50 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et sur France.tv. Voilà, c'est dit. Et nous allons parler maintenant de Cuba, n'est-ce pas, Béatrice ?
Oui, Cuba qui adopte des mesures d'urgence face à la crise énergétique. Le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, est préoccupé par la situation humanitaire à Cuba, qui va s'aggraver si les États-Unis continuent de menacer l'approvisionnement de l'île en pétrole. Après avoir tari les livraisons depuis le Venezuela, à la suite de la capture de Nicolas Maduro en janvier, Trump a pris un décret disposant que les États-Unis pourraient frapper de droits de douane les pays vendant du pétrole à La Havane. Trump invoque une menace sur la sécurité états-unienne. De son côté, La Havane accuse Trump de vouloir asphyxier l'économie de l'île, où les coupures d'électricité sont quotidiennes et les pénuries de carburant s'accentuent. Trump a assuré avoir engagé un dialogue avec le gouvernement cubain et dit entrevoir un accord. Trump a indiqué que le Mexique, qui fournit Cuba depuis 2023, allait cesser de le faire. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, avait annoncé son intention d'envoyer de l'aide humanitaire sur l'île et d'y travailler un moyen de continuer à lui envoyer du pétrole. Le gouvernement cubain a annoncé vendredi 6 février un paquet de mesures, dont la semaine de 4 jours dans les entreprises d'État et des restrictions de vente de carburant pour faire face à la crise énergétique que traverse le pays sous la pression états-unienne.
Oui, et nous allons revenir la semaine prochaine sur Cuba parce que on parle beaucoup en ce moment. Mais nous allons écouter aussi la musique cubaine.
Me lo dice.
Tiene sabor y nada más. Folklore, musique cubaine, très entraînante, n'est-ce pas, Béatrice? Tu voulais danser?
Oui, la prochaine fois.
Bon, alors, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur RLP, n'est-ce pas? Mais nous allons parler d'un sujet très intéressant qui concernait presque partout dans le monde, les dessalements au Chili, n'est-ce pas?
L'eau. Le Chili choisit le dessalement. Touché par une sécheresse chronique, le Chili prévoit de quadrupler la production à l'avenir. Les serres du centre agricole La Portada sont posées dans le désert d'Atacama, le plus aride du monde. À quelques encablures d'Antofagasta, ville côtière de 400 000 habitants, à 1300 km au nord de Santiago, laitues, fruits de la passion, citrons ou légumes y sont cultivés en bio, sans terre. Leur secret dans cette région sans eau. L'océan Pacifique tout proche. La ferme agricole est reliée à l'usine de dessalement de la société Aguas Antofagasta, en service depuis 2011, qui lui fournit de quoi alimenter 6 réservoirs de 30 000 litres d'eau dessalée. Aguas Antofagasta, la société, est la plus grande unité de dessalement destinée à l'eau potable d'Amérique latine, avec une capacité de 1400 litres par seconde. De ces hangars installés face à l'océan, à une hauteur qui les protège des tsunamis, on ne perçoit rien de ce qui se joue sous la surface. L'eau est captée à 400 mètres de la côte, à 25 mètres de profondeur, par des tubes de 1,60 m de diamètre. Depuis 2025, Antofagasta et la petite ville de Mérillones, 1600 habitants, ou 16 000 habitants, je crois que tu m'as dit.
1600, oui.
Sont alimentés à 100% en eau dessalée. Le Chili subit une sécheresse persistante depuis 2010, liée au dérèglement climatique. La pénurie d'eau est aggravée par l'accaparement de l'eau par les grandes entreprises agro-exportatrices, minières ou industrielles. Avec près de 6 000 km de côte, le dessalement apparaît ici comme une solution idéale.
Extiende tus blancas alas y vuela hasta encontrar remedio para tus heridas y olvides tus penas.
Las alas de aquel palomo quieren ayudarte.
Si unes a él tus alas, volarás muy lejos.
Folklore du nord du Chili, Antofagasta, on vient de parler du nord du Chili, donc c'est typique. Et nous allons parler maintenant d'un film d'un Mexicain qui se passe aux États-Unis, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, c'est le Mexicain Michel Franco qui s'alarme de la poussée xénophobe aux États-Unis. Michel Franco s'est beaucoup intéressé aux racines et aux conséquences de la violence qui secoue son pays, avec son nouveau film « Dreams », récit d'une passion toxique entre une riche mécène des arts états-uniens et un jeune danseur mexicain. Le cinéaste explore la relation perverse qui unit le Mexique aux États-Unis, un lien qui s'est dégradé avec le second mandat de Trump. Le cinéaste explique: depuis mon enfance, je suis troublée par la façon dont les Mexicains sont traités aux États-Unis. Une partie de la main-d'œuvre est composée d'immigrants et plusieurs millions de ces travailleurs sont des Mexicains. Le film montre comment ils sont traités comme des personnes de second ordre. Je suis préoccupée par la façon dont les États-Unis contrôlent la politique mexicaine. On peut se demander si le rêve états-unien existe toujours ou s'il n'est pas trop naïf d'y croire encore. Voici le sujet du film. On suit l'errance d'un jeune migrant mexicain assoiffé et affamé qui, à pied et en stop, tente de gagner San Francisco. Il finit par approcher une maison bourgeoise. Il récupère les clés et se glisse à l'intérieur comme s'il était chez lui. La propriétaire des lieux, de retour chez elle, semble à peine surprise de le trouver là. Après avoir échangé quelques mots, ils font l'amour tendrement. Premier retournement d'un récit qui joue avec les attentes du public pour s'en détourner et questionner nos préjugés.
Oui, on peut ajouter que Drums, ce rêve, déploie surtout avec pragmatisme tout un enchevêtrement des violences ordinaires, du mépris au rejet de l'autre, en passant par son objectivation, qui traverse aussi bien la société nord-américaine que mexicaine. Le mal, c'est ce refus de faire de l'autre son égal. Voilà, donc, ce qu'on peut dire de ce film qu'on a pu visionner hier soir. Mais je pense que ça vaut la peine de le voir, ce film. C'est une suggestion, ce n'est pas un conseil. Mais allez voir ce film, Dream, rêve. Voilà. Avec le folklore mexicain, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir et redécouvrir des aspects de ce continent qu'on ne connaît pas très bien ici en France et en Europe. Merci beaucoup à Béatrix qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine. Et merci à notre technicien très apprécié, Antoine, muchas gracias. Hasta pronto.